Bonjour, nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre émission. Ça se passe près de chez vous et nous accueillons d'ailleurs, bonjour Jean-Marc.
Bonjour Stéphanie.
Et nous accueillons Simon Kieffer, donc directeur de l'ARS pour les Yvelines. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots et nous dire à quoi sert l'ARS ?
Bonjour à tous, donc je m'appelle Simon Kieffer et en effet je suis directeur de la délégation départementale de l'Agence régionale de santé. Les missions de l'Agence régionale de santé, en fait, c'est de piloter la politique de santé qui est définie par le ministère de la Santé et de la décliner à l'échelon régional et à l'échelon local. Et notre organisation, elle s'appuie sur un projet de santé qui est élaboré avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les usagers, les élus, les établissements de santé, l'ensemble des acteurs de soins, et nous agissons sur l'ensemble du champ de la santé dans sa globalité, à la fois sur le soin, mais aussi sur la prévention, sur les situations sanitaires exceptionnelles, bref, sur l'ensemble du champ de la santé.
Alors peut-être que vous pourriez préciser ou donner un exemple sur la question de la prévention. Qu'est-ce que vous entendez sur cette intervention de l'ARS ? Est-ce que vous êtes en soutien des associations qui font de la prévention et des établissements ?
Alors nous, notre objectif, en effet, c'est de soutenir, c'est déjà de définir des objectifs, des axes, des directions, sur quoi on veut agir et d'aider l'ensemble des acteurs, qu'ils soient soit les établissements de santé, le monde associatif, mais également les collectivités, à mettre en œuvre des actions qui permettent d'atteindre ces objectifs. Dans le projet régional de santé, par exemple, une de nos priorités, c'est la santé mentale des jeunes, notamment des jeunes. Et dans ce cadre, on finance un certain nombre d'actions auprès d'acteurs pour améliorer la santé mentale.
Si je puis me permettre, avant de poursuivre, vous laisser poursuivre votre propos, je voudrais juste faire une parenthèse qui, sans être trop indiscret. Qu'est-ce qui vous a amené dans le domaine de la santé à travailler, à représenter l'ARS au niveau de notre département?
Alors moi, je suis un pur produit du service public, c'est-à-dire, et notamment du service public de la santé, parce que j'ai toujours travaillé dans ce champ-là. Tant à l'échelon national, régional que départemental aujourd'hui. Et ce qui m'a amené en fait sur ce champ, c'est cette volonté de concourir à l'intérêt général et d'améliorer la vie des gens au quotidien. Et quoi de mieux que la santé en fait quand on parle amélioration de la vie des gens au quotidien.
Voilà. Il y a quelques instants, vous évoquiez avec Stéphanie la santé mentale, notamment des jeunes. C'est aussi un aspect qui n'était pas développé comme il l'est aujourd'hui, il y a encore quelques années. C'est un nouveau phénomène de société ?
Alors, la santé mentale, naturellement, a toujours été un champ sur lequel les politiques de santé ont été, actives. Pour autant, en effet, aujourd'hui, c'est un véritable... une véritable problématique de société. Et vous parliez spécifiquement de la santé mentale des jeunes. On voit malheureusement l'augmentation du nombre de situations de détresse chez les jeunes qui peuvent aller à des problématiques graves, de tentatives de suicide, par exemple. On admet qu'il y a eu un effet... après le Covid, et que en effet les nombres de situations de détresse chez les jeunes se sont amplifiés depuis le Covid, et aujourd'hui c'est notre préoccupation majeure, la santé mentale.
Ça représente, sans vouloir rentrer trop dans les chiffres, parce que c'est pas ça l'important de notre entretien, ça représente à peu près quel pourcentage de la population? Alors, on parlait des jeunes, mais de la population générale, les problèmes de santé mentale.
C'est extrêmement difficile.
C'est difficile
en fait,
à quantifier. Ouais.
À quantifier, mais on travaille avec l'éducation nationale, par exemple, qui est naturellement aussi très attentive à ces questions et qui a fait des questionnaires pour essayer de voir auprès des jeunes quels étaient leurs sentiments sur leur santé mentale. Et on atteint en gros des proportions autour d'un quart de jeunes qui se sentent en situation de mal-être. Alors ça va du mal-être léger. Alors moi je ne suis pas médecin, donc
oui,
m'excuseront.
Il ne s'agit pas de handicap, on est bien d'accord.
Alors là on n'est pas dans une situation de handicap, ce qui est aussi d'ailleurs un autre
domaine sur lequel vous...
sur lequel, enfin, un domaine sur lequel on travaille activement, c'est la prise en charge du handicap. Là, la problématique est un peu différente. C'est pas tant une augmentation du nombre de cas que un système qui ne répondait pas à l'ensemble des besoins, qui ne répond malheureusement toujours pas à l'ensemble des besoins des personnes en situation de handicap et notamment des jeunes.
Alors justement, pour faire de la prévention sur ce sujet, sur la santé mentale des jeunes et des moins jeunes, parce que c'est effectivement un sujet qu'on retrouve depuis le Covid, vous l'avez dit, pas que chez les jeunes, quel type de propositions
de préconisations
vous mettez en place ou vous accompagnez?
Alors nous, on a un certain nombre d'axes prioritaires en matière de santé, de prévention en santé mentale. Je mets de côté parce que c'est aussi un sujet. Éventuellement, je pourrais le développer, mais il y a la question de l'offre de psychiatrie, mais qui est un autre sujet que celui de la prévention en santé mentale. Le premier axe sur lequel, en matière de prévention, on essaye de travailler, c'est de repérer et de créer des points d'accueil, en fait. C'est pour recueillir les situations, les jeunes, les personnes qui auraient des problématiques de santé mentale. Notamment, par cet intermédiaire, on finance deux maisons des adolescents dans les Yvelines, une dans le nord des Yvelines à Poissy et une au sud des Yvelines qui est à Versailles. On finance en lien avec la caisse des allocations familiales les points d'accueil écoute jeune, ce qu'on appelle les PAEJ, qui l'une ou l'autre, de façon différente, peuvent proposer des consultations de psychologues, par exemple. Donc, premier axe, c'est l'accueil et c'est se mettre en capacité, en fait, de répondre aux besoins des personnes et là notamment des jeunes. Le deuxième axe, c'est de donner des clés pour bien réagir dans des situations de la vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales.
Ces clés, vous les donnez aux instituteurs, aux professeurs?
Alors, sur le développement des compétences psychosociales, là, on les donne aux personnes concernées, donc plutôt à des jeunes et à des élèves, en l'occurrence, puisqu'on cible les élèves en CM2 ou 6e. Donc là, on finance, en lien avec l'éducation nationale, des programmes de développement des compétences psychosociales qu'on appelle les CPS. Ça, c'est le deuxième axe.
Oui, allez-y, je vous en prie.
Et le troisième axe, plutôt du côté, aussi des professionnels que vous évoquiez, c'est de aussi donner des clés aux professionnels pour bien réagir face à des situations de détresse psychologique et de santé mentale. Et là, c'est le brevet de premier secours en santé mentale. Donc, on finance des formations à un certain nombre de professionnels. On a financé les professionnels de l'ASE pour qu'ils aient ces clés pour bien réagir au bon moment. On va financer, et on a pour projet de financer les bailleurs sociaux, les gardiens, par exemple, dans des immeubles, pour qu'ils aient des clés. Et puis, des fois, ils font face à des situations qui peuvent être difficiles à appréhender. Voilà, par exemple, un type d'action. Et puis après, des actions thématiques, les préventions des addictions, la prévention des écrans, des choses de cette nature-là.
Voilà, Stéphanie, je propose qu'on fasse une pause, mais c'est important, Monsieur Kieffer, que vous parliez de tous ces sujets parce que effectivement, on peut avoir dans le grand public une image administrative de l'ARS et vous illustrez ainsi par vos propos que en fait, vous agissez concrètement dans la vie quotidienne, vous aidez à agir.
Nous, notre objectif, et je le disais en introduction, c'est agir à l'échelon local. Et on est bien dans une logique d'accompagnateur, de facilitateur des initiatives locales pour répondre aux besoins des populations. Donc, même si je sais que, notamment, dans l'opinion publique, et puis en plus, en ce moment, on est un peu dans les médias, on parle de réorganisation ou de réforme des ARS. Moi, ce que je constate et ce que je peux certifier, c'est que notre objectif, c'est d'être au plus près des gens, quels qu'ils soient, d'accompagner notamment les collectivités, les élus locaux à monter leur projets, à les accompagner dans ce qu'ils ont envie de faire au service de la population.
Très bien.
On fait une courte pause et voilà. Puis on se retrouve juste après. On se retrouve après cette courte pause. Nous sommes toujours avec Simon Kieffer, qui va donc nous parler des compétences psychosociales juste avant notre petite pause. Vous évoquiez les compétences psychosociales. Peut-être vous pouvez clarifier ce que ça veut dire. Et en quoi ça consiste ?
En fait, les compétences psychosociales, c'est la capacité d'une personne à faire face efficacement aux exigences, aux défis de la vie quotidienne. C'est la capacité d'une personne à se maintenir dans un état de bien-être psychique et d'avoir donc les comportements adaptés et positifs lorsqu'il est en interaction avec les autres ou lorsqu'il fait face à une situation. Et pour cela, il y a un certain nombre de programmes agréés et reconnus, scientifiquement reconnus, qui sont labellisés et que l'on développe essentiellement dans le milieu scolaire ou dans le milieu plutôt des jeunes. Et pour nous, c'est quelque chose auquel on croit véritablement, c'est-à-dire donner ces clés à des jeunes d'avoir les éléments pour bien réagir face à des situations qui peuvent être
stressantes,
okay. Bien réagir, alors, peut-être faire des situations un peu exceptionnelles, mais des situations de harcèlement, choses comme ça, pas se sentir coupable, être en capacité d'aller le dire à un adulte, à un référent, voilà. C'est ces choses-là, les compétences psychosociales. Et c'est pour ça qu'on a développé en 2025 un appel à projet au niveau régional pour développer ces compétences psychosociales dans les cités éducatives. Donc au sein de l'école, au sein de ces cités éducatives qui portent, elles, des programmes de développement plus larges d'ailleurs que les seules compétences psychosociales. Et dans les Yvelines, on a 4 cités éducatives qui ont été sélectionnées pour développer de façon assez massive ces programmes de compétences psychosociales. Et on l'évoquait, on est dans le sud d'Yvelines, et dans le sud d'Yvelines, il y a la cité éducative de Trappes, mm-hmm. qui va bénéficier de ce renforcement, en fait, de l'accès aux compétences psychosociales.
Et alors, vous disiez dans le sud d'Yvelines, donc près de chez nous, Trappes, mais vous parliez de 4 cités éducatives. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire où sont les 3 autres ?
Alors, les 3 autres, c'est Carrières sous Poissy, Les Mureaux et Chanteloup également.
Okay.
Donc, on voit qu'on vise en fait en direction, c'est le principe des cités éducatives, ce qu'on appelle les quartiers politiques de
la
ville.
Mmh.
Donc, les établissements scolaires qui se trouvent en quartier politique de la ville.
D'accord. Et alors, ces compétences psychosociales, elles sont délivrées par un psychologue,
Elles sont délivrées par des associations, en fait, qui développent un programme de formation qui a été agréé. Donc, ça peut être différents types d'intervenants qui interviennent auprès des jeunes. Alors, il est vrai qu'en plus, il y a des formats un peu différents, donc c'est plus ou moins long, il y a une variété d'intervenants. Mais l'idée générale, c'est d'apprendre à des jeunes, là autour de 9-11 ans, en fait, à bien réagir face à des situations, comme vous évoquiez tout à l'heure, stressantes.
Et alors, cette politique de déploiement des compétences psychosociales, c'est quelque chose qui est mis en place depuis combien de temps ?
Alors, ça, c'est mis en place depuis, on va dire, 3-4 ans.
Mmh.
Et c'est un véritable objectif, alors qui est régional d'ailleurs, qui n'est pas spécifique
au département.
Aux Yvelines. Mmh. Notre idée, c'est de former assez, enfin, former, c'est un bien grand mot, mais en tout cas...
De sensibiliser.
De sensibiliser aux compétences psychosociales toute une tranche d'âge. Et donc, essentiellement, ceux qui ont autour de 10 ans.
Voilà, d'accord. Donc ouais, juste avant l'entrée au collège pour
exactement.
Préparer la confrontation des
exactement.
Plus petits avec les plus grands et des potentielles situations qu'on
fait.
Pourrait pas gérer sans avoir les clés, c'est ça ?
Donc c'est d'accord. Et c'est une politique nationale également d'ailleurs, régionale, mais c'est aussi déployé dans d'autres régions.
D'accord, mais vous adressez également à d'autres populations que les populations jeunes.
On s'adresse à beaucoup d'autres populations. J'évoquais tout à l'heure le brevet de premier secours en santé mentale. Là, on est face à une population adulte, enfin, et qui peut être jeune aussi. D'ailleurs, on fait aussi des jeunes, mais là, c'est essentiellement face à une population adulte. Et puis les actions, j'évoquais également les actions de prévention plus larges en matière de santé mentale, addiction, par exemple. Là, c'est aussi en direction de population qui n'est pas essentiellement jeune.
Et alors, qui peut passer un brevet de sécurité en santé mentale?
Premier secours en santé mentale. Alors, ça peut être tout le monde, il faut être majeur.
D'accord. Voilà.
La seule limite, il faut être majeur.
Voilà. Okay.
Donc, et on a aussi, comme on essaye de développer, on forme aussi des formateurs au premier secours en santé mentale. Dans le cadre notamment des contrats locaux de santé, on a donc les contrats locaux de santé, c'est des politiques contractuelles. En fait, c'est des contrats entre une collectivité, une commune ou une intercommunalité, l'agence régionale de santé et l'ensemble des partenaires qui participent à la politique de santé au sens large, la CEPAM, la préfecture, la CAF, et dans ces contrats locaux de santé. On met à la fois les compétences psychosociales et à la fois les premiers secours en santé mentale. L'idée, c'est de massifier, en fait, de façon assez importante, l'accès à ces éléments qui nous paraissent essentiels face à cette problématique de hausse des problématiques de santé mentale.
Et alors, est-ce que vous avez un retour sur tout ce qui est mis en place, que ce soit les compétences psychosociales qui sont délivrées aux jeunes, le brevet de premier secours? Est-ce que vous avez un retour de ce programme qui est quand même en place depuis 3-4 ans, vous disiez?
Alors, les retours, ils sont extrêmement positifs. Alors, les retours sur les compétences psychosociales, c'est assez difficile à évaluer vraiment scientifiquement. On sait juste, et ça, là-dessus, la littérature internationale, c'est pas un retour spécifiquement yvelinois qui montre la nécessité d'accompagner les jeunes autour de cette thématique des CPS. Donc ça, c'est prouvé. Et sur le premier secours en santé mentale, oui, on a des retours, des vrais retours de terrain de professionnels qui ont été formés au premier secours en santé mentale, des professionnels de l'ASE, par exemple, qui nous disent que ils sont plus armés pour faire face à des situations de détresse psychologique qu'ils peuvent rencontrer avec les enfants qu'ils accompagnent, les ados qu'ils accompagnent, et qu'on leur a permis de mieux réagir. Voilà, ces petites choses là qui montrent que ça marche. On a aussi des retours, alors pas dans les Yvelines, mais c'est pour ça qu'on va le faire dans les Yvelines, chez les bailleurs sociaux, c'est-à-dire la formation des gardiens, leur donner des clés de bien réagir face à des situations. Des fois, c'est difficile de réagir face à quelqu'un qui est en détresse psychologique.
Bien sûr.
Et donc finalement de mieux exercer son métier et d'être plus à l'aise dans son métier.
On va refaire une courte pause et on revient juste après pour poursuivre cette interview. On se retrouve pour Ça se passe près de chez vous. Ça se passe toujours, effectivement, près de chez nous avec Simon Kieffer, directeur départemental de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Juste avant la pause, on parlait santé mentale, mais on va maintenant aborder le thème du handicap, parce qu'effectivement, dans ce domaine, vous, l'ARS a aussi un rôle à jouer. Peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots, monsieur Kieffer.
On a un rôle essentiel, puisque, comme je le disais en introduction, nous, notre rôle, c'est de soutenir, déployer l'offre pour répondre aux besoins de la population. Il s'avère que l'Île-de-France, historiquement, et les Yvelines également, en fait, sont sous-dotées en solutions pour les personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'en 2023, l'ARS Île-de-France a mis un plan de développement de l'offre pour les personnes en situation de handicap, qui s'appelle Inclusif. Et dans le cadre de ce plan, c'est près de 20 millions d'euros qui ont été affectés aux Yvelines pour créer des solutions pour les enfants ou les adultes en situation de handicap. Concrètement, dès la première année du plan, c'est l'année 2024, on a créé 288 solutions, places pour les personnes et les enfants en situation de handicap. Donc on voit qu'on est dans une politique majeure, puisque 288 enfants qui trouvent une solution alors qu'ils n'en avaient pas, alors que les besoins sont très importants, c'est des choses qui sont concrètes et qu'on en va continuer à amplifier, qu'on a amplifié en 2025 et en 2026. Et ça passe, par exemple, par un plan de création d'unités d'enseignement autiste, donc au sein de l'école, niveau soit maternel ou élémentaire. Et par exemple, en 2025, on a ouvert une unité d'enseignement polyhandicap au Chénet, une unité d'enseignement élémentaire autisme à Maurepas. Enfin, voilà, je pourrais lister les nombres de solutions, mais c'est vraiment une politique forte sur laquelle on agit. Et pour aller encore plus loin, nous engageons là depuis la fin de l'année un moment de ce qu'on appelle de transformation de l'offre médico-sociale. Ce mouvement de transformation de l'offre, il vise deux choses, enfin simples. C'est que un, tout le monde puisse trouver une solution, et deux, que ce soit pas aux familles, si on parle des enfants, mais ça vaut également pour les adultes, à se démener dans notre jungle de recherche de solutions. Et donc c'est donner une responsabilité aux gestionnaires dans le fait de trouver cette solution pour les personnes qui en ont besoin.
Qui sont concernées. Ouais. Alors 288 solutions, donc 288 personnes, enfants ou adultes, oui. Qui bénéficient d'une...
Alors là, c'est que des enfants.
Que des enfants, oui.
Non, les classes Ulysse, c'est l'éducation nationale. Nous, on vient en complément, en fait, des classes Ulysse.
maintenant que la parenthèse est fermée, 288, du coup, enfants qui trouvent une solution, est-ce que ça répond à la totalité des demandes ou est-ce que...
Alors, malheureusement, on sait que les efforts à faire sont juste énormes puisque même si les Yvelines... Tout à l'heure, je disais que l'Île-de-France était sous-dotée. Les Yvelines, parmi, l'Île-de-France est quand même un département qui était bien doté. L'effort, il n'est pas nouveau puisque ça fait 15 ans qu'il y a un développement de solutions. Malheureusement, les besoins augmentent de façon très importante et malheureusement, des enfants ou des adultes sont ce qu'on appelle, ce terme barbare, sur liste d'attente aujourd'hui. Donc, on continue nos efforts. Mais il serait trompeur de dire qu'on répond
à l'ensemble du problème.
Besoins. C'est, voilà. Malgré des efforts que l'on fait quotidiennement voilà, pour fluidifier, créer des solutions nouvelles, malheureusement, le besoin, la région Île-de-France voilà, est considérée au niveau national hein,
oui.
comme la région qui a le plus de besoins. Donc on continue nos efforts.
D'accord. Alors, on l'a pas dit, mais l'ARS, enfin, vous aussi, vous l'avez dit en introduction, l'Agence régionale de santé, il faut d'ailleurs que j'arrête de dire l'ARS, parce que je vais perdre nos auditeurs. L'Agence régionale de santé, elle a aussi cette mission d'accompagnement financier des établissements de santé. L'année dernière, vous avez aidé massivement l'hôpital de Rambouillet. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette aide et de son objectif.
Nous, en effet, notre mission, c'est d'accompagner l'ensemble des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. D'ailleurs, même les
Donc les cliniques sont concernées.
Les cliniques sont également concernées. Donc on assure bien le pilotage de l'ensemble de l'offre et notre accompagnement est sur la totalité de l'offre, qu'elle soit publique ou privée. Et donc on accompagne les établissements qui ont des besoins et qui ont des projets à porter, et notamment en matière de financement d'investissement. Et vous évoquiez le centre hospitalier de Rambouillet. Donc au centre hospitalier de Rambouillet, il était convenu dans l'ensemble des parties qu'il y avait une problématique importante qui était celle des urgences, ce qui est un peu la vitrine aussi de l'hôpital. Et donc des urgences qu'elles soient adultes ou pédiatriques d'ailleurs. Et en effet une aide non négligeable puisque 12 millions d'euros ont été attribués à l'établissement de Rambouillet essentiellement pour rénover ces urgences. Rénover, c'est pas seulement rénover, j'allais dire passer un coup de peinture, c'est aussi se réorganiser, c'est aussi avoir un meilleur parcours patient, aussi avoir des meilleures conditions de travail pour les professionnels. Et donc, dans cette logique-là, une aide, effectivement, pas exceptionnelle, mais une aide importante,
significative,
a été attribuée à l'hôpital de Rambouillet. Et je crois que les travaux avancent bien. Bientôt, les urgences de Rambouillet auront seront toutes neuves et un parcours patient et des conditions de travail
renouvelées
et améliorées.
Et c'est loin d'être le seul, effectivement, vous l'avez dit, vous suivez tous les établissements de santé, mais il y a aussi la question des certifications, notamment cette année, Oudan et Bullion sont concernés par le passage de certification. Peut-être que vous pourriez développer qu'est-ce que c'est que cette certification. Alors, qui a un impact pour les patients.
Tous les établissements de santé doivent faire l'objet d'une certification par la Haute Autorité de Santé. Une certification qui vise à garantir la sécurité et la qualité des soins, puis bien voler également satisfaction des patients. En effet, un établissement comme Oudan fait l'objet, comme tous les établissements, de cette certification. Nous, notre job, c'est d'accompagner les établissements à réussir cette certification. Il faut bien dire que Oudan a déjà fait l'objet d'une première visite, ce qu'on appelle des experts visiteurs, des experts de la Haute Autorité de Santé, qui a relevé un certain nombre de problématiques sur lesquelles il fallait travailler. Et donc l'établissement d'Oudan fera l'objet d'une deuxième visite de certification au mois de juin 2026. Et donc nous travaillons, notre intérêt et notre travail, c'est d'accompagner l'établissement à réussir cette visite de certification au mois de juin pour garantir une sécurité et une qualité des soins aux patients.
Concrètement, comment vous aidez les établissements à travailler sur leur certification, sur la réussite de cette certification?
Alors, ça peut être
par des aides, c'est des formations,
ça peut être plusieurs choses. Ça peut, en effet, on peut les faire accompagner. C'est le cas de Oudan par une structure régionale qui ne dépend pas de l'ARS, qui accompagne les professionnels sur cette certification. Mmh. Ça passe aussi par des choses, j'allais dire, qui sont moins matérielles, mais nous, avec Oudan, on a tout un programme de suivi et donc nous essayons de garantir que l'établissement remplit tous les objectifs de la certification. Ça peut en effet être une aide financière s'il y a des problématiques qui nécessitent un investissement particulier ou un besoin financier particulier. Donc notre aide, elle couvre à 360 les besoins de l'établissement et elle s'adapte en fait aux besoins de l'établissement.
D'accord. On va faire une courte pause et on revient juste après pour la dernière partie. Jean-Marc.
La conclusion d'émission, effectivement.
Ça se passe près de chez vous. On est de retour, toujours avec Jean-Marc.
Oui, toujours avec Stéphanie. Et notre invité, monsieur Kieffer. Voilà, qui est directeur départemental de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Voilà, il faut le dire.
Juste avant la pause, on parlait effectivement de votre accompagnement de l'ensemble des établissements de santé, publics ou privés. Mais est-ce que vous pouvez agir au niveau local? Quelles sont vos prises là-dessus?
En fait, c'est une critique qu'on nous fait en effet souvent, en disant que on est un peu loin des réalités du terrain. De la vraie vie, si je puis me permettre l'expression. Il s'avère que l'ARS Île-de-France, en fait, c'est pas le cas. Alors peut-être que ça se voit pas, mais notamment moi, depuis l'année dernière, à mon niveau, puisque vous parliez d'agences régionales de santé, mais agences régionales de santé, c'est aussi les délégations départementales, je dispose d'une enveloppe de 1 million d'euros, ce qui est quand même non négligeable, au regard des finances publiques actuellement, qui me permettent de financer tout projet issu du terrain, adapté au terrain et qui ne s'insère pas ou dans une politique qui me serait imposée ou dictée. Et ce million, cette enveloppe-là, moi j'ai fait le choix, on a fait le choix collectivement dans les Yvelines, en plus d'en confier une partie à notre instance de démocratie en santé, notre parlement en fait de la santé qui regroupe des acteurs du système de santé du département. Et donc nous avons confié 20% de l'enveloppe, de 200 000 euros à ce conseil territorial de santé pour qu'il finance, qu'il identifie des projets et qu'il finance les projets sans intervention de l'agence régionale de santé, si ce n'est en termes d'ingénierie pour monter les projets. Et de cette façon-là, on a, par exemple, en 2025, financé une plateforme de répit en soins palliatifs. Et c'est des choses qui n'existent pas. Donc, dans les Yvelines Sud, est en train d'être montée, une plateforme de répit pour les accompagnants de personnes qui sont en soins palliatifs. On a également financé une unité, enfin ce qui s'appelle l'unité territoriale d'éducation thérapeutique du patient. L'éducation thérapeutique du patient, c'est comment on apprend à un patient à vivre avec sa maladie, à gérer sa sa maladie, c'est ça, l'éducation thérapeutique. Et donc, dans le GHT Nord, on finance une unité d'éducation thérapeutique. Et dans le cadre de cette enveloppe, mais également, on a financé un projet un peu phare qui est une première régionale, qui est le fait d'avoir des, ce qu'on appelle des médiateurs en santé aux urgences pédiatriques. Donc, on a quatre services d'urgence pédiatrique dans les Yvelines, et dans trois des quatre, on finance des médiateurs en santé, donc des personnes qui sont là dans les urgences pour accompagner les familles à un moment, par nature, par définition, difficile. Quand vous êtes aux urgences avec un enfant, c'est pas simple, et pour les accompagner dans leur démarche, pour expliquer comment ça va se passer, pour les accompagner à la sortie. C'est des gens qui sont formés, c'est un diplôme de médiateur en santé. Donc on finance en fait l'ensemble de, enfin trois médiateurs en santé dans trois SAU pédiatriques, services d'accueil d'urgence, pardon, pédiatriques. Voilà, et c'est des sommes qui sont non négligeables, hein, parce qu'on est un peu plus de 200 000 euros sur ces médiateurs en santé. Et ça, c'était vraiment issu du terrain, c'est-à-dire que c'est les professionnels des urgences pédiatriques qui nous ont dit. Et si on pouvait être accompagné, des fois il y a des moments de tension, tout. Donc comment on pourrait avancer et nous aider finalement à prendre en charge ces enfants aux urgences.
Et alors ces médiateurs, on les retrouve sur le GHT Nord, comme vous dites.
Et sur le
site. On va peut-être préciser ce qu'est le GHT Nord et le GHT Sud.
Alors les GHT, c'est les groupements hospitaliers de territoire. Donc on en a deux dans les Yvelines, un qui s'appelle le GHT Nord et un qui s'appelle le GHT Sud. Dans les Yvelines, tout marche nord-sud, donc c'est assez facile. Donc le GHT Nord regroupe les établissements de Mantes, Melun-lès-Mureaux et Poissy, puis d'autres établissements. Et puis le GHT Sud, les deux gros établissements, c'est Versailles, Rambouillet, puis il y a Oudan, Bullion, Chevreuse, également dans le GHT Sud. Et donc ces médiateurs sont pas que dans le GHT Nord, sont également dans le GHT Sud, sont également aux urgences pédiatriques de Versailles.
D'accord. Et vous le disiez, l'Agence régionale de santé, enfin la délégation départementale, a bien des missions, qu'elles soient d'accompagnement financier ou aussi d'intégration sur le local. Mais vous occupez aussi de la santé environnementale, ça peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots.
C'est en effet une mission qui est peu connue, fait de l'Agence régionale de santé. Et en effet, on a une mission de ce qu'on appelle de protection de la ressource. Et donc, la ressource, c'est l'eau, l'air, la terre, et notamment, enfin, des choses très concrètes. On est garant de la qualité de l'eau potable, ce qu'on appelle pour consommation humaine, c'est un barbarisme administratif. On est également garant de la qualité des eaux de baignade. Donc quand il y a des plans d'eau de baignade qui s'ouvrent, en fait, nous assurons le contrôle de l'eau de baignade. C'est pour ça que certains de vos auditeurs peuvent voir parfois se fermer.
Il y en a dans la région. Hein,
il y en a dans la région.
Effectivement.
Il y a les étangs de Hollande.
Il y a les étangs de Hollande, notamment,
voilà, qui sont surveillés et qui, malheureusement, ferment.
Sont souvent fermés selon les périodes, voilà.
Et on contrôle également l'impact de projets d'urbanisme sur ces ressources, sur l'eau, sur la terre. Donc, on peut intervenir sur des permis de construire, avoir une analyse environnementale du sujet. Et le dernier point très important sur lequel on intervient, c'est la lutte contre l'habitat indigne. Et donc ça, c'est une mission que l'on réalise pour le compte de la préfecture, qui est déléguée à l'ARS. Et concrètement, on fait des visites de logement et on peut jusqu'à obliger un propriétaire à faire des travaux. Et donc ça, c'est un élément important de santé publique. C'est-à-dire que nous, on intervient à partir du moment où il y a un impact sur la santé publique. Ça permet de lutter contre le saturnisme, par exemple.
Qui existe toujours.
Et qui existe toujours, malheureusement.
Ouais, effectivement. On arrive au terme de cette émission. C'était passionnant, intéressant. On pourrait y passer plusieurs heures encore parce qu'il y a des tas de sujets à aborder. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de, si vous en êtes d'accord, de vous réinviter sur notre station. Monsieur Kieffer, merci en tout cas d'être venu.
C'est moi qui vous remercie.
Et pour votre intervention. Stéphanie, merci. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions Monsieur Kieffer, qui est
directeur
départemental
de l'Agence régionale de santé.
C'est voilà. Ça.
ARS.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.